pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Igor Strauss.
Bonjour. En matière de lutte contre la pollution, certaines villes sont considérées comme des modèles. Curitiba, au sud du Brésil, est de celles-là. Nous verrons pourquoi dans la seconde partie de cette émission. Et puis il y a les villes qui ne sont pas des modèles, loin de là, mais qui tentent de réagir. Direction l'Ouganda à présent. En mai 2016, l'Organisation mondiale de la santé publie un rapport sur la pollution atmosphérique des villes, révélant que Kampala, la capitale du pays, est particulièrement polluée. Cours d'eau envahis de détritus, fumée noire provenant de véhicules hors d'usage, particules fines, la pollution est généralisée. Pour la mairie de Kampala, qui subit déjà les conséquences du changement climatique, il est donc important d'agir. Les autorités de la ville ont donc lancé depuis peu une politique environnementale dynamique pour changer les habitudes des habitants et des institutions. C'est un reportage de Charlotte Cosset.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour, mon nom est Esso Galukande et je travaille pour l'autorité de la ville de Kampala en tant qu'adjoint à la production et au marketing. Aujourd'hui, nous avons une formation pour les fermiers. Et en fait, nous nous concentrons sur les fermiers en zone urbaine et périurbaine. Nous voulons leur enseigner certaines techniques, comme comment conserver l'alimentation pour le bétail. Mais nous voulons aussi leur enseigner des techniques de production de légumes en ville. Nous avons environ 300 personnes, alors qu'initialement nous avions prévu une centaine. Nous avons été vraiment submergés. C'est un énorme succès. Je pense que beaucoup de gens recherchent des solutions pour faire de meilleurs bénéfices et aussi pour réduire le coût de l'alimentation du bétail. Ils doivent relever plusieurs défis, comme le fait de travailler de petites parcelles, de trouver de bonnes semences et d'obtenir de nouvelles technologies qu'ils peuvent utiliser pour produire de la nourriture pour leurs animaux. Donc ce centre fait des démonstrations techniques qu'ils peuvent utiliser dans leur ferme. En tant que ferme urbaine, nous avons des cochons dont nous nous occupons et nous utilisons notre système appelé IMO. Ce sont des micro-organismes indigènes qui détruisent les odeurs des cochons. Et donc par conséquent, vous pouvez avoir des cochons en ville sans aucune odeur. Cela fonctionne très bien. Par exemple, là nous avons 200 cochons et je ne pense pas que vous puissiez sentir quelque chose. En fait, ça consiste en une litière faite de copeaux de bois et de foin. Nous faisons ce qui s'appelle une solution IMO en utilisant une bactérie que nous cultivons pendant une semaine. Et ensuite, il nous suffit d'en répandre toutes les semaines. 20 litres pour une unité suffisent à détruire les odeurs. Tout le monde peut en faire. Un autre produit que nous avons ici, ce sont les sacs de culture. Nous montrons aux gens qu'ils peuvent produire de la nourriture, même s'ils vivent dans un appartement. Cela se fait dans un sac et vous plantez verticalement. Vous pouvez produire suffisamment de légumes pour votre famille pour une année dans un sac de 100 kilos.
Je crois que cette ferme urbaine est écologique.
Oui, ça l'est, parce que nous cherchons toujours à recycler. Et en même temps, nous essayons de promouvoir le bio pour tous les systèmes. Nous faisons le maximum pour produire les légumes de manière biologique. C'est vraiment important parce que nous ne voulons pas dégrader l'environnement et nous voulons être sûrs de ce que nous mangeons.
Ok, now here you can put lettuce, you can put cabbage, you can put spinach, you can put sukumawichi, then on top. You put tomatoes, bulb onions, so everything that has got.
I'm about to graduate from the university, Makerere University.
Je vais bientôt être diplômée de l'université de Makerere. J'y ai fait un baccalauréat en sciences et nature. Je suis en train de chercher une manière de gagner un peu d'argent en attendant d'avoir un salaire. Mais pour l'instant, avant d'être diplômée, je souhaite commencer une petite entreprise agricole. Je suis convaincue par ces sacs de culture, car j'en ai vu avant sur Internet et dans de nombreux endroits. C'est comme de la culture urbaine, mais ils le font sur un plus petit espace. Vous pouvez le faire dans votre arrière-cour, et c'est vraiment bon marché et pratique. Ce qui est bien par rapport à d'autres modes de production, c'est que vous pouvez apprendre aux enfants comment cultiver de cette manière. Par exemple, disons que vous cultivez des tomates. On peut mettre 24 plants de tomates dans un sac de culture. 24 plants de tomates cultivées de manière conventionnelle vont avoir besoin de plus d'espace qu'un mètre carré. Et ce sera donc également plus d'un mètre carré que l'on va devoir arroser. Si je voulais arroser les mêmes 24 plants sur un terrain conventionnel, cela demanderait au moins 100 litres d'eau par semaine. Alors qu'avec ce sac, on a besoin de 50 litres. C'est une véritable économie et c'est bon pour l'environnement. Et avec cette méthode, les sols ne sont pas appauvris et je peux retirer le sac quand j'ai fini. Et comme il n'y a pas besoin d'ajouter de produits chimiques, c'est aussi bon pour le sol.
Est-ce que c'est important pour toi de respecter l'environnement ?
C'est très important parce que les générations futures ont besoin d'un endroit où vivre. Il nous faut penser à un futur pour tout le monde et ne pas seulement penser au présent, parce que les jeunes arrivent et nous allons vieillir. Donc nous devons leur laisser un meilleur environnement.
Donc ce n'est pas seulement une question d'argent.
Non, vraiment pas. Ok, bien sûr, tu peux penser à l'argent, c'est vrai. Tu peux évidemment te demander si cela est rentable. Après, tu penses à, est-ce que c'est bon pour l'environnement ? Alors si c'est ok, tu peux le faire. Si ce n'est pas bon, tu peux bien sûr continuer. Mais je pense qu'il ne faut pas aller sur cette voie. C'est vraiment important pour moi d'avoir quelque chose de respectueux. Cela doit être bon pour tout le monde, même pour ceux qui vivent autour de ma production. Par rapport aux pesticides, il y a des alternatives. Par exemple, j'ai lu quelque part que l'on peut utiliser de l'urine de lapin. Les produits bio sont meilleurs pour la santé et ils sont aussi meilleurs pour l'environnement. Donc je pense que c'est bien de regarder vers des alternatives aux pesticides et aux produits chimiques. Nous conservons l'alimentation pour les animaux, afin qu'ils puissent être nourris pendant la saison sèche. Nous utilisons des déchets, comme le reste des patates douces, afin de faire de l'ensilage. Vous savez, habituellement, les restes de patates douces sont jetés pendant la période des récoltes. Et pourtant, ils peuvent être utilisés pour nourrir les animaux. Donc maintenant, nous formons les fermiers urbains à collecter ces déchets et à faire de l'ensilage qu'ils peuvent utiliser le reste du temps. C'est écologique et cela contribue à la sécurité alimentaire et à assurer les stocks pour les animaux. Parce qu'on peut ainsi nourrir ces animaux toute l'année et donc avoir du lait et cela crée des revenus.
Donc les gens sont très intéressés.
Les gens sont vraiment très intéressés. En fait, le nombre de participants espérés a été dépassé. Alors, comment j'explique cela ? Les gens sont vraiment demandeurs. D'habitude, après une présentation, normalement les gens s'en vont. Mais regardez, il pleut et les gens sont toujours là. Cela montre leur intérêt pour cette formation. Vous savez, la sécurité alimentaire est un vrai problème aujourd'hui. Les gens dépendent de leurs animaux et n'ont pas de travail. Donc quand ils se tournent vers la culture, ils doivent trouver une solution pour nourrir leurs animaux et obtenir un moyen de subsistance. Vous savez, le chômage est partout et il y en a tellement. C'est pour ça qu'ils vont vers l'agriculture urbaine.
Je suis moi-même un fermier, je viens de Mukono. Je devais venir parce que, vous savez, lorsque vous échangez avec d'autres fermiers, vous apprenez tellement. En vérité, j'ai appris beaucoup, surtout de cette dame ici, qui nous a donné des informations sur comment conserver la nourriture pour les animaux. C'est vraiment bien. Parce que, vous savez, pendant la saison des pluies, on a de l'herbe ou du foin, mais lorsque la saison sèche arrive, votre animal meurt de faim parce que vous n'avez pas de quoi le nourrir. Mais si vous apprenez comment préserver de la nourriture, alors c'est super. J'ai appris qu'il y avait des formations par un ami et j'ai reçu aussi de la publicité disant que nous allions avoir une démonstration agricole par KCCA à Kampala. J'ai donc décidé de venir. Ces exemples sont bons et je pense qu'il faut même plus d'explications. C'est pourquoi je voudrais acheter le CD de cette dame. Ainsi, quand je rentrerai à la maison, je pourrai réviser tout ce que j'ai entendu ici et avoir quelque chose de plus approfondi quand je le mettrai en pratique. Une autre chose, la façon dont ils ont fait les sacs de culture, je ne savais pas qu'il existait des choses comme celle-là. Quelqu'un m'a dit que je pouvais facilement les mettre dans ma parcelle et planter des fruits et des légumes et je pourrais consommer tout de suite. C'est aussi une chose intéressante que j'ai apprise ici.
À Kampala, la politique de la ville est tournée vers les questions environnementales depuis peu. Jennifer Musisi est la directrice de Kampala Capital City Authority, KCCA.
5 years ago, we came into the city to set up the new.
Il y a 5 ans, nous sommes arrivés à la mairie pour mettre en place une nouvelle organisation en charge de la gestion de la ville, la Kampala Capital City Authority.
Then developed more specific plans for the city. Our overall vision is to turn Kampala.
Nous avons développé notre plan stratégique et ensuite plus spécifiquement des projets pour la ville. Toute notre vision est de faire de Kampala une ville attractive, vibrante et durable pour tous. Inévitablement, l'un des principaux points dans les objectifs de durabilité et d'attractivité sont les questions relatives au changement climatique. Nous avons, par conséquent, développé un plan d'action sur le changement climatique. Nous travaillons aussi pour promouvoir l'usage d'énergies renouvelables. Par exemple, nous travaillons à changer nos lampadaires par des systèmes fonctionnant au solaire. Nous avons aussi introduit le biogaz pour la cuisine dans les différentes écoles que nous gérons. Et nous avons aussi mis en place des cuisinières écologiques dans l'un de nos plus grands marchés afin d'aider les femmes à cuisiner d'une manière durable, sans charbon et sans bois de chauffe. Elles utilisent désormais des pierres volcaniques pour la cuisine. Nous avons voulu impliquer toutes les parties prenantes parce que nous savons que nous ne pouvons le faire seuls. Par exemple, en ce qui concerne les énergies renouvelables et le biogaz, nous avons approché d'autres acteurs comme les institutions, le secteur privé, les ministères concernés et les avons impliqués pour voir comment nous pouvions travailler ensemble afin d'être sûrs que notre stratégie réussisse. Nous avons aussi fait la promotion de projets d'énergie renouvelable dans les communautés que nous supportons, mais aussi dans nos écoles en sensibilisant les enfants. Il y a encore une longue route à parcourir, mais il y a maintenant une conscience à propos de la déforestation et de la nécessité de se tourner vers l'écologie. Ces 5 dernières années, nous avons travaillé à rendre la ville plus verte et il y a déjà un impact positif. Et nous encourageons les communautés à s'impliquer dans ces projets environnementaux.
Quels impacts ?
Things like erosion.
Des choses comme l'érosion. L'érosion des sols a diminué depuis que nous avons planté des arbres et des graminées. Et puis, ces plantations ont un impact direct sur la qualité de l'air que nous respirons en ville. Tout le monde est concerné et tous les acteurs doivent participer.
Mon nom est Sunday Emmanuel, je suis le directeur de Capida. Capida est une organisation non lucrative spécialisée dans l'environnement et spécifiquement dans les technologies permettant de faire des économies d'énergie. Nous avons commencé il y a 3 ans. Nous visons les jeunes qui recyclent les déchets dans la ville et faisons des briquettes. Ces briquettes sont une forme d'énergie vraiment pas chère et qui sont utiles au niveau des ménages et aussi au niveau des institutions comme les hôtels. Nous sommes basés à l'université de Makarere qui nous aide à améliorer certaines de nos technologies pour nos briquettes. La Kampala City Council Authority est vraiment notre principal client. Ils achètent nos briquettes pour leur projet de couveuse de poussins à Kianja, l'une des banlieues de Kampala. Là-bas, ils forment des jeunes à des projets durables qu'on peut réaliser soi-même. Nous recyclons tout type de déchets, y compris les déchets organiques humains. Ici, dans la ville de Kampala, il y a des tas de poubelles, ainsi que des déchets en provenance des abattoirs. Des abattoirs qui sentent vraiment mauvais. Mais nous collectons ces déchets et nous les faisons sécher. Nous utilisons ici tous les types de matières organiques. Donc ce que nous faisons, c'est que nous carbonisons cette matière. Carboniser signifie transformer ces déchets en noir de carbone. Pour cela, nous les brûlons dans nos installations, ici. Mais maintenant, notre plus gros défi, ce sont les machines. Les machines que nous avons ne sont pas conçues pour produire différentes tailles de briquettes. Nous produisons pour l'instant uniquement de grosses pièces qui peuvent être utilisées par les restaurants et les grandes institutions. Mais nous savons que les personnes qui endommagent l'environnement sont essentiellement au niveau des ménages. Donc, nous nous concentrons maintenant sur eux. Nous essayons d'obtenir des machines qui peuvent modeler des petites briquettes que les femmes à la maison peuvent utiliser tous les jours. Mais pour l'instant, comme nous n'avons pas de machine, le prix de nos briquettes est un peu élevé par rapport au charbon. Mais si nous obtenons des machines, nous pourrons baisser le prix. Si nous réduisons le prix, ainsi, beaucoup de ménages pourront se tourner vers nos briquettes. Un autre point positif est qu'elles ne produisent pas de fumée et elles brûlent plus longtemps. Watson peut venir et expliquer combien il en produit chaque jour.
Bien sûr. Les briquettes que nous faisons, celles qui sont en forme de nid d'abeille, une personne en une journée peut en faire 120-130.
C'est ici que nous séchons à la fois nos briquettes en nid d'abeille et nos briquettes en forme de bâtonnet. C'est pourquoi nous avons posé cette bâche ici. C'est pour arrêter la pluie et ainsi nous pouvons les faire sécher même la nuit. Cette machine a des tubes à l'intérieur. Vous voyez ? C'est comme des dents dans la machine. Il va mettre la matière. Et là, il presse. Et nous utilisons aussi les déchets du charbon. Ce pays utilise beaucoup de charbon et cela a causé vraiment beaucoup de problèmes pour l'environnement. Le charbon, c'est la déforestation. De plus, nous avons très peu d'électricité. Notre pays ne peut pas en fournir à tout le monde. Donc les gens utilisent le charbon. Et ce charbon a vraiment détérioré notre environnement. Nous pensons que si nous recyclons le charbon, nous pouvons consommer moins d'énergie. Et bien sûr, nous pensons que grâce à cela, nous pouvons diminuer le stress environnemental causé par l'utilisation du charbon.
Chigamba, Exela, Chiweteo, Simanyo Bansena Colantia, Ebiroto Catimuenda, Unapukumi Ezigense, Nsulanka Bakuluo, Simanyo Bawa Vigalao.
La lutte contre la pollution à Kampala, c'était un reportage de Charlotte Cosset réalisé par François Porcheron. Restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes après le Flash Info. C'est pas du vent, à suivre. RFI.